Alors, donc, on continue, on reprend chapitre 3, l'ouverture du chapitre. Alors, je vous mets en première sous-partie la polémique, et c'est l'apparition de ce texte à Maurice Laetitia en 2016, a suscité une polémique. Une sorte d'attaque contre le François en cause l'orthodoxie de son enseignement. C'est quand même assez stupéfiant. Le pire, c'est que les coups viennent de quatre cardinaux. Ils écrivent au pape, c'est ce qu'on appelle les doutes. Doutes. Doutes sur la cohérence entre Amoritatis Splendor de Jean-Paul II en 1993.
Je n'entends plus.
Donc voilà, il publie ça. Ils envoient ce sens-là.
J'entends plus rien.
Je vais couper les micros de tout le monde. Il y a plein de bruit.
Pourquoi s'il n'y a pas de son?
Voilà. Voilà. Qui n'a pas son? Vous avez du son? Vous m'entendez? Faites-moi.
En fait, c'est assez
Vous
mauvais,
m'entendez?
c'est assez haché le son.
Oui.
Il faudra faire.
Pas mal.
Ah, mais décidément.
Faudra améliorer le Wi-Fi un petit peu.
Décidément, alors. Ah, ça, je ne sais pas comment faire.
Et peut-être qu'on peut désactiver nos vidéos pour qu'il y ait moins de.
Ah oui, les caméras, en effet, il paraît que c'est mieux. Alors, je vais faire ça sur la mienne déjà. Voilà, il paraît que c'est mieux quand on fait ça. Alors, donc, j'en étais à vous raconter
Rien.
l'histoire selon laquelle le pape a été attaqué par quatre. Attendez, hop, je règle ça, voilà. Voilà. Quatre cardinaux. Ce sont des cardinaux, un cartel, dit De Gaulle, qui écrivent au pape les doutes, les doutes sur le pape ne répond pas à ce courrier. Le ton est en effet, vous allez l'entendre, je vais vous donner un ou deux exemples, le ton de ce courrier est en effet assez trop impératif, presque accusatoire. Et face à ce silence, au lieu de rentrer dans le rang ou d'attendre poliment, ils rendent public leur dubia, qui veut dire doute donc, hein, et les diffusent dans la presse. C'est donc une sorte de mise en demeure, une déclaration d'hostilité. C'est en vérité à peine croyable. Personnellement, j'y vois une fixation de revanche par rapport à un ressentiment accumulé. Vous savez probablement que le pape François ne s'est pas privé de critiquer régulièrement les cardinaux de la Curie romaine. Et ce sont des prélats rebelles, en vérité, aux appels de conversion concrète de l'Évangile, que le pape François assène en effet régulièrement et de façon assez directe, il faut bien le dire, assez cash. Disons-le d'un mot, ces cardinaux, et ils ne sont pas les seuls, hélas, ces cardinaux n'aiment pas la manière de François de leur donner des leçons. Et je pense qu'il y a là une espèce de revanche amère. Pour le dire clairement, ces prélats très pointilleux et rigoristes sur les règlements et la discipline se comportent comme si le pape n'était pas pape. Car je rappelle quand même que le pape est, dans le magistère, le numéro un. Et donc, quand il enseigne, eh bien, ça fait autorité. Ceci étant posé, on peut quand même observer ce qu'ils disent. En fait, il rejette les ouvertures, timides pourtant, vous allez le voir, hein, du chapitre 8 d'Amoris Laetitia concernant l'admission des divorcés remariés à la communion eucharistique. Voilà le débat. Et donc, c'est ça qui les agace. Le pape n'a pas répondu à ces dubia, et il a bien fait. Et il, ça revient plutôt au travail de la Commission internationale de théologie. Mais il faut savoir que la déclaration publiée par l'évêque de Buenos Aires à propos de l'application de ces reflétait bien les intentions du pape. Alors, je vous le mets ici, là, sur l'image. Vous avez ce fameux Monseigneur Victor Manuel, Manuel, puisqu'il est de langue espagnole, d'Amérique latine, de Buenos Aires, et il a écrit un texte où il dit voilà comment on pourra mettre en application les ouvertures que propose le chapitre 8 concernant les divorcés remariés. Le pape a fait savoir par un courrier qu'il était complètement d'accord avec cette interprétation, et il a même précisé qu'il n'existe pas d'autres interprétations que celle du cardinal Fernandez. Point final. Voilà, ouais, c'est la manière dont le pape a répondu. Vous trouverez ces correspondances dans ce petit recueil hein, que je vous montre à l'instant, que je vous recommande vraiment, c'est un petit texte, dans lequel il y a également la réaction du cardinal Schönborn. Alors Schönborn, c'est lui aussi, hein, c'est un poids lourd, c'est un vieil homme maintenant. Mais Schönborn a réagi contre ces quatre cardinaux. Hein. Sinon, je vous conseille ces deux livres-là. Si vous voulez un livre, le travail qu'on va faire maintenant, Patrick Lang, c'est un peu technique, mais ça donne aux évêques qui le voudraient bien les outils pour mettre en œuvre les ouvertures que propose le pape. Quant au livre de gauche, Alain Thomasset et Jean-Miguel Garrigue, alors il est très intéressant, ce livre, parce qu'il observe les dubia une à une et il y répond. Et alors, c'est un jésuite et un dominicain qui ont travaillé à ce livre. C'est un petit livre tout à fait remarquable. Donc voilà, alors allons-y avec ces fameuses dubia. Il y en a cinq. Je vous lis pas les cinq, hein, mais deux seulement. Voici la numéro 2. Alors, je vais vous les lire et les expliquer. C'est donc le second doute, un dubium des dubia. Après après l'exhortation post-synodale Amoris Laetitia, l'enseignement de l'encyclique de Saint Jean-Paul II, Veritatis Splendor, fondée sur la Sainte Écriture et sur la tradition de l'Église, à propos de l'existence de normes morales absolues, obligatoires, sans exception, qui interdisent des actes intrinsèquement mauvais, continue-t-il à être valide ? Alors, voilà le ton, oui. Voilà le ton des dubia. Je fais quelques remarques. D'abord, ces références à la tradition semblent quand même un peu agaçantes. Je les mets en vert. Il semble laisser entendre que le pape François, lui, n'appartiendrait pas à cette haute tradition. Comme si le pape François n'était pas pape au même titre que Jean-Paul II. Vous voyez ? Comme si le pape François ne se fondait pas sur la ni sur la tradition de l'Église. Ils se sont arrêtés à une période extraordinairement fixiste qu'est le XVIIe siècle. Ensuite, il y a deux points dans leur dubium que je souligne en rouge. L'existence, ils insistent sur l'existence des normes morales absolues. Et, deuxième chose, de quels actes intrinsèquement mauvais parlent-ils ? Leur mode, vous l'avez vu, est d'opposer les textes, comme si ce n'était pas la tradition de l'Église, de sans cesse faire bouger ses propres lignes. Mais là, ils citent l'enseignement de Jean-Paul II, qui est en effet un enseignement assez juste, hein, « Veritatis Splendor », et l'enseignement de Jean-Paul II, « Veritatis Splendor », s'en prenait au relativisme, ou plus précisément, il voulait lutter contre les morales situationnistes. Alors, je vous explique. Donc, c'était ça la cible de Jean-Paul II. À mon avis, d'ailleurs, c'est Joseph Ratzinger qui l'a écrite. Jean-Paul II était déjà très vieux et déjà affaibli. Et vous savez que c'est un thème constant chez Ratzinger, contre donc, tout ça, vous voyez, ce sont à peu près les mêmes écoles. Situationniste, c'est une morale qui consiste, contre quoi Jean-Paul II a voulu lutter. Donc, le situationnisme, c'est une morale qui consiste à relativiser les lois générales parce que chaque acte est authentiquement moral quand il répond le plus justement possible à une situation. Vous voyez, c'est très technique, hein. C'est depuis Kant. Depuis Kant qu'on a ça. C'est-à-dire Kant, par exemple, dira que faire quelque chose de bien mécaniquement, ce n'est pas moral. Ce n'est pas immoral, bien sûr, mais c'est amoral. Pour faire quelque chose qui soit authentiquement moral, il faut le vouloir. Et donc, il faut répondre effectivement et activement au mieux à telle ou telle situation. C'est-à-dire qu'il n'y a de vraie morale pour ces gens-là que s'il y a un jugement moral. Alors, on peut être d'accord avec cette morale. Vous voyez que c'est technique hein, quand même, hein, comme débat. Mais ça tend à dire, et voilà ce que prétend Jean-Paul II, ça tend à dire qu'il n'y aurait pas de normes universelles, ou du moins que leur applicabilité devient très souple et relève en fait et des situations et des circonstances et de la conscience, mais sans la validité des normes universelles qui est défendue par nos quatre cardinaux, la conscience risque d'aller vers le subjectivisme, c'est-à-dire à chacun sa loi. Et donc, ils ont conclu avec le pape François, avec le pape Jean-Paul II, il faut bien que ces lois universelles soient reconnues et il faut bien aussi qu'elles soient contraignantes. C'est ce qu'on appelle le tutiorisme, c'est-à-dire la nécessité qu'il y ait des tuteurs, des balises. Ah oui, j'ai oublié de vous passer cette photo qui illustre premièrement, celui qui est dans une situation particulière et qui se gratte la tête. Et deuxièmement, celui qui dit « je ne comprends pas, donc j'en fais qu'à ma tête ». Et les rigoristes disent « non, 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 il faut qu'il y ait des balises très claires et qu'on s'en tienne absolument à ces balises ». C'est donc ce qu'on appelle les rigoristes ou les tutioristes contre les situationnistes. Donc, vous voyez le débat est quand même à haute volée. Hein. Et ce n'est pas un débat, léger. Les rigoristes, donc, disent que les lois doivent toujours s'appliquer. Et les autres diront que les lois sont des repères toujours utiles. Donc, voilà le débat qu'ils veulent mettre entre Jean-Paul II et François. François, à vrai dire, ne contredit pas tout ça, mais il veut que le rigorisme ne soit pas la loi, comme je vous l'ai dit deux, trois fois. C'est-à-dire le rigorisme à la loi passe derrière les exigences de la charité, passe derrière le regard du Christ et passe derrière les annonces de l'Évangile. Et donc, il tempère ce qui doit en effet pour lui rester un repère, non par relativisme, mais par miséricorde pastorale. Et en fait, François, quand il dit ça, s'appuie sur saint Thomas d'Aquin, qui préconise lui-même ça. Donc, vous voyez, c'est quand même un débat costaud, quoi. C'est vachement intéressant. Bon, j'espère que vous avez suivi. Je vous donne un deuxième dubium, c'est le numéro 4. Les autres sont à peu près semblables. Hein. Ceux-là sont les plus intéressants. Je vous le lis. Après les affirmations contenues dans Amoris Laetitia, vous voyez, il y a toujours ce ton accusateur, à propos des circonstances qui atténuent la responsabilité morale. Faut-il encore considérer comme valide l'enseignement de l'encyclique de Saint Jean-Paul II, Veritatis Splendor, fondé sur la Sainte Écriture et sur la tradition de l'Église, selon lequel les circonstances ou les intentions ne pourront jamais transformer un acte intrinsèquement malhonnête, de par son objet, en un acte subjectivement honnête. Donc ici, on voit, je vous les remets en vert, on voit le même soupçon, hein, moi, le cardinal Trucmuche, je défends la tradition, et ce pape est en train de la quitter. Puis, on a la question très intéressante également, des circonstances qui pourraient se faire circonstances atténuantes pour l'imputabilité d'une situation, c'est-à-dire l'imputabilité, la responsabilité. Si vous voulez. Parmi ces circonstances atténuantes, il y a l'intention. Ces deux points font strictement partie de la tradition morale de l'Église. En effet, oui, les circonstances et les intentions peuvent faire que vous entriez dans un acte intrinsèquement mauvais. Alors, l'exemple que donnent les défenseurs de François est très connu. Il prend un autre exemple que celui des divorcés remariés, parce que peut-être que vous avez compris que ces gens-là pensent que revivre une seconde noce, c'est un acte intrinsèquement mauvais. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Hein. Alors, les défenseurs contestent cette contestation et disent, mais bien sûr que oui, c'est la tradition constante de l'Église de dire que les circonstances atténuent l'imputabilité. Et c'est les intentions qui comptent. Alors, l'exemple qui est archi connu, hein, c'est l'exemple de la guerre. Par exemple, c'est la théorie de la guerre juste. Quand on défend un pays contre une invasion, on fait la guerre. Et la guerre est toujours un mal. C'est toujours un acte intrinsèquement mauvais. Personne ne vous dira que la guerre est intrinsèquement bonne. Et pourtant, les circonstances transforment ce qui est intrinsèquement malhonnête en un acte honnête. Vous m'avez suivi ? C'est la théorie de la guerre juste. Et donc, ce que nos cardinaux dénoncent, ils se trompent complètement, ça fait bel et bien partie de l'enseignement de l'Église. Oui, les circonstances modifient l'imputabilité d'un acte intrinsèquement mauvais. Si du moins, on leur concède qu'une seconde noce serait un acte intrinsèquement mauvais. Voilà, vous m'avez suivi ? Mais c'est quand même vachement technique. Hein. Et donc, c'est oublier évidemment un principe tout à fait important, qui est le principe de gradualité dont Jean-Paul II, encore lui, est l'auteur. Alors, maintenant que je vous ai présenté les dubia, vous voyez, la polémique et ce qu'elle relève, elle relève en fait qu'il y a un grand rigorisme.
Pas à peine, faut pas de bruit.
Chez ses opposants, nous allons voir ce que dit le pape François au chapitre 8, ce qui a déclenché l'ire de ces messieurs. Et donc, je vais collecter quelques déplacements. Là encore, je vous propose 5 points. Le pape le dit clairement, il ne va pas créer une nouvelle doctrine du mariage. De même, n'a-t-il pas écrit clairement dans quel cas il était autorisé d'accéder à la communion? Alors, on a l'impression, quand on lit ce texte, qu'en fin de compte, rien ne change. Que la montagne a accouché d'une souris. Je vous ai dit, c'est ma mascotte du jour, la petite souris. En fait, si, les choses changent. Du moins, les accents bougent. Les raideurs sont rejetées, ça c'est très clair, le pape Jean-Paul II rejette les erreurs. Des questions sont enfin posées. Vous allez voir, j'en trouve 5. 5 petites choses que j'ai observées, mais qui sont en fait assez considérables et suffisamment considérables pour faire sursauter nos 4 braves cardinaux. Alors allons-y avec mes 5 observations. La première, les 5 petits déplacements. La première, c'est que le pape utilise toujours l'expression « situation dite irrégulière », dite-t-elle par le droit de l'Église. Mais il y a plus large et plus haut que le droit, c'est la miséricorde. La miséricorde n'annule pas le droit, bien sûr, mais la logique juridico-théologique ne doit jamais empêcher la miséricorde. Et donc, je cite le paragraphe 311, vous allez voir, c'est quand même tout à fait étonnant. Si, donc ça, c'est le pape François maintenant. « S'il est vrai qu'il faut préserver l'intégralité de l'enseignement moral de l'Église, on doit toujours mettre un soin particulier à souligner et à encourager les valeurs plus hautes et centrales de l'Évangile, surtout la primauté de la charité, comme réponse à l'initiative gratuite de l'amour de Dieu. Parfois, il nous coûte beaucoup de faire place à l'amour inconditionnel de Dieu dans la pastorale. Nous posons tant de conditions à la miséricorde que nous la vidons de son sens concret et de signification réelle. Et c'est la pire façon de la liquider, de liquider l'Évangile. La traduction française donne « liquéfier ». Mais liquéfier en français, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Alors vous voyez, c'est un texte très important. Il l'a déjà dit d'emblée quand il rentrait dans son ministère de pape, il disait que nous faisons trop de douane pastorale. Et donc, il y a trop de conditions à la miséricorde. Et donc, les règlements d'interdiction, d'accusation de péché grave et constant maintenu, et qu'on reproche aux divorcés remariés, ce sont des conditions à la miséricorde. Et la miséricorde est sans condition. Ça, c'est le premier point. Vous voyez qu'il y a un petit truc comme ça en passant. Deuxième point. Le chapitre porte comme titre, le chapitre 8, « Accompagner, discerner, intégrer la fragilité ». C'est ça le titre. Il s'agit en effet de tenir compte de la fragilité des situations humaines par rapport à un idéal qu'on ne peut pas ne pas annoncer. On est d'accord sur le fait que la fidélité dans le mariage, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Mais il faut tenir compte de la fragilité. Et cette fragilité, il faut l'accompagner. Il faut même l'intégrer dans nos pastorales. Et peut-être faut-il même l'intégrer dans nos règlements et dans la discipline, disons, des sacrements. Il faut intégrer dans les mentalités de l'Église le fait que les situations sont désormais fragiles et elles ont toujours été. D'ailleurs, le peuple de Dieu a fait depuis belle lurette cette intégration. À ce propos, je fais remarquer un truc qui quand même me surprend un peu. Même encore dans ce texte, la discipline de l'Église, quand elle autorise un peu de souplesse dans l'accès au sacrement, préconise qu'on le fasse discrètement pour éviter le scandale public et que soient blessés les plus fragiles ou ceux qui, eux, tiennent encore leur engagement. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait éventuellement une bénédiction de seconde noce, il faut le faire en catimini, de manière, dit-on classiquement dans la discipline de l'Église, de manière à ne pas choquer les gens. Mais c'est ne pas percevoir à quel point les situations devenues fragiles, bancales, hors cadre, sont devenues monnaie courante. Ce qui est choquant, ce n'est pas qu'un divorcé remarié aille communier. Ce qui est choquant pour la plupart d'entre nous, c'est la dureté de cette exclusion. Voilà, ça c'était une note en passant. Il s'agira encore, donc, accompagner, discerner, intégrer, il s'agira encore d'accompagner, de discerner et d'intégrer les couples mis dans des situations dites irrégulières. Intégrer, donc. Donc, je vous donne, je vous cite à nouveau un petit texte. L'Église doit accompagner d'une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, marqués par un amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance, comme la lumière du phare d'un fort ou le flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête. N'oublions pas que souvent, la mission de l'Église doit ressembler à celle d'un hôpital de campagne. Voilà, vous connaissez certainement cette expression de François, hein. L'Église doit soigner, elle doit arrêter de condamner et d'exclure et de blesser, elle doit soigner. Souvenez-vous, hein, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. C'est dans Marc chapitre 2. Je ne suis pas venu appeler les justes, ceux qui se prétendent justes, mais les pécheurs. Et donc, en effet, l'Église doit être plus miséricordieuse qu'elle n'est juge. Il faut apprendre, encore une fois, comme il faut apprendre à voir, à regarder comme le Christ regarde, non en soupçonnant, mais en aimant en tout homme, chaque homme possible. Troisième chose, troisième point, J'en ai dit un mot à l'instant, c'est le principe de gradualité. Il est rappelé plusieurs fois dans ce texte. Dans Familiaris Consortio, c'est Jean-Paul II qui a introduit ce principe dans le discernement moral. Cette gradualité va vers trois objets. Pour l'idéal du mariage, dit le pape, il y a bien sûr ce que propose l'Église. Certaines formes d'union contredisent radicalement cet idéal, c'est le pape qui parle, mais, je continue la citation du pape, paragraphe 292, mais d'autres situations d'union réalisent cet idéal au moins en partie. Bon, voilà, petit détail au passage, hein, vous l'avez remarqué. Donc, paragraphe 292, oui, bien sûr, il y a l'idéal. L'idéal de la famille chrétienne, mais d'autres formes d'union, alors lesquelles? Eh bien, les divorcés remariés, peut-être même faut-il aller plus loin, les unions libres, les homosexuels, d'autres formes d'union la réalisent au moins en partie. C'est complètement dingue de dire comme ça au passage, hein. C'est évidemment assez extraordinaire. Et il continue en disant, il faut aller chercher en eux les éléments de vie qui peuvent conduire à une plus grande ouverture à l'Évangile. L'idée n'est donc pas d'entérimer une situation, mais de permettre un toujours mieux. Ça, c'est le premier projet de gradualité. J'en suis toujours à la gradualité. Donc, il glisse au passage qu'il y a d'autres formes d'union qui ne sont pas au sommet. OK, ce n'est pas au sommet. Mais voilà, c'est la gradualité, c'est-à-dire bah, ils n'en sont pas au sommet. Et ce n'est pas pour ça qu'on va les condamner. Le second objet de gradualité, c'est dans l'évaluation des responsabilités dans une situation dite irrégulière. Bon, ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous par cœur. On ne peut pas juger de la même manière une femme victime de violence et un don Juan qui quitte comme ça sa famille d'une manière capricieuse. Vous voyez, on ne peut pas avoir le même degré de responsabilité, ce qu'on appelle dans le langage technique l'imputabilité. Et le troisième degré, le troisième objet de la gradualité, c'est la manière dont on va intégrer ces couples cabossés, ces couples en situation d'échec et de reconstruction, comment va-t-on graduellement les réintégrer ? Alors ça, c'est très intéressant de penser qu'il y a donc une réintégration pleine et entière possible. Comment va-t-on le faire ? Par degré, répond le pape, par gradualité. Quatrième point que je relève au passage, c'est la question des célébrations des sacrements, de la célébration et des sacrements. Quelques maigres indices, là encore, hein. Mais quand même quelque chose. Paragraphe 294. Je vous lis, vous voyez, il y a beaucoup de textes, hein, bon, mais ça ne se fait pas en principe dans un PowerPoint, mais là, c'est quand même des textes qu'il faut, il faut vraiment être vigilant pour choper le truc, la petite souris qui se promène. Le choix du mariage civil ou, dans différents cas, de la simple vie en commun n'est dans la plupart des cas pas motivé par des préjugés ou des résistances à l'égard de l'union sacramentelle, mais pour des raisons culturelles, plutôt chez nous en Occident, ou contingentes, plutôt dans les pays les plus pauvres. Dans ces situations, je l'ai mis en rouge, dans ces situations, il sera possible de mettre en valeur ces signes d'amour qui, d'une manière ou d'une autre, reflètent l'amour de Dieu. Il est clairement question, là, de célébration. Et donc, il dit, sous d'autres formes d'union que le mariage, il est tout à fait possible de célébrer l'amour de Dieu. Mais voici d'autres, paragraphe 300, on lit, il faut seulement un nouvel encouragement au discernement responsable personnel et pastoral des cas particuliers, qui devrait reconnaître que, étant donné que le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas, je viens d'en parler, c'est le principe de gradualité. Je répète mes exemples, mais ça vous les connaissez, vous en avez plein dans votre entourage. Quelqu'un qui a du jour au lendemain, qui a été abandonné par sa femme, ou une femme qui quitte un foyer parce que ça devient trop violent, il y a une grande différence. Par rapport au don Juan qui s'en va comme ça par caprice, ou qui s'ennuie, qui décide de faire un degré de responsabilité, pas le même dans tous les cas. Les conséquences, les effets d'une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. Vous voyez, là, il y a une avancée très claire, quoi. On pourrait même dire, mais il ne le dit pas dans ces formes-là, mais on pourrait même dire, les conséquences et les effets doivent nécessairement être différents. C'est ça le principe de gradualité. Et il ouvre la porte. Mais il y a une note au paragraphe 300 qui est celle-ci. Il ajoute, pas davantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle. Étant donné, donc pas davantage, c'est-à-dire il ne faut pas traiter de manière égale. Étant donné que le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière, il n'y a pas de faute grave. Voilà, donc, vous voyez, ça, c'est une vraie belle avancée. Un peu plus loin, au paragraphe 305, j'espère que je ne vous assomme pas avec tous ces textes, hein, mais rassurez-vous, j'en ai bientôt fini, mais c'est très important quand même. Paragraphe 305, à cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que dans une situation objective de péché, qui n'est pas subjectivement imputable, alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire quand vous êtes dans une situation d'avoir rompu une première alliance, mais que ce n'est pas de votre faute. Je continue. Il est possible que l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer, qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l'aide de l'Église. De quoi parle-t-il ? Ben, des sacrements, de l'accompagnement spirituel, de l'engagement dans tel ou tel mouvement, etc. Et il y a une note pour préciser, pour enfoncer le clou. Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements, des fois qu'on n'est pas compris. Voilà pourquoi, au prêtre, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais un lieu de miséricorde du Seigneur. Je souligne également, alors ça, il faudrait l'encadrer, vous voyez, j'ai mis un smiley enthousiaste, je souligne également que l'Eucharistie n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Savez-vous que c'est ce que l'Église orthodoxe nous dit depuis 3 siècles. Les orthodoxes nous disent depuis 3 siècles que ce que nous avons fait en liant le sacrement de réconciliation au sacrement de l'Eucharistie, c'est une erreur. Comme s'il fallait être pur pour aller communier. C'est l'inverse qui est vrai. Pour aller communier, il faut être pécheur, si j'ose dire. Mais c'est pas... La communion eucharistique n'est pas une récompense, comme il dit, un prix destiné au parfait. Voilà, ça c'est très important. Donc on a en effet inversé dans l'Église catholique depuis 3 siècles, on a inversé les choses. Là où l'Eucharistie est un sacrement de guérison, nous en avons fait une récompense pour des parfaits. Donc voilà, il le dit là, il le dit en toutes lettres. Donc, il y en a encore un cinquième. Par conséquent, c'est mon cinquième point, le dernier. Par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel privé de la grâce sanctifiante. Ça n'est plus possible d'asséner ce genre d'accusation. Voilà. Est-ce que vous avez bien perçu, je pense, quand même, tous ces petits points, hein. Mais je crois qu'au final, toutes ces petites avancées vont finir par, en effet, faire bouger les lignes et peut-être même soulever le mammouth qu'est le rigorisme dans l'Église. Voilà, j'en ai fini. On a perdu un peu de temps tout à l'heure, mais ça va, j'ai réussi à finir sans trop bâcler. J'espère que c'est bien passé. Vous pouvez me dire hein, ce que vous en pensez de tout ça et peut-être faire quelques questions. Voilà.
Oui, moi j'ai on vous voit pas là.
Ah, alors attends. Ah oui, j'ai coupé ma caméra exprès.
Ah oui.
Je la remets. Oui, pour que ça passe mieux. Voilà, c'est moi. Coucou.
D'accord. Oui, moi j'ai une question à poser parce que je suis justement dans la situation d'être divorcé. Pas divorcé remarié, mais divorcé. J'appartiens à des groupes de divorcés remariés. Ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait vrai. J'ai assisté à des unions, y compris avec la présence d'un prêtre, qui se faisait pratiquement en catimini. Moi, le parallèle que je fais, et c'est un petit peu mon obsession, c'est que je me dis que l'Église a avancé beaucoup plus en matière des suicidés qui, à un moment donné, étaient refusés dans l'Église, au niveau des funérailles, alors qu'en fait, c'est une autre forme d'agression que de se supprimer la vie. Je vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Mm-hmm. Je pense que ça doit être quelque chose de terrible. Le divorce, le suicide est certainement un appel qu'on n'a pas compris de quelqu'un qui est en souffrance. Mais on a accepté l'exemple typique, par exemple, c'est quand même François Mitterrand qui a mis fin à sa vie en arrêtant tout traitement. Donc, il est arrivé et il a eu le droit pratiquement, non pas à des obsèques nationales, mais enfin à des obsèques à l'Église.
Bon. Oui, et nationales aussi. Oui.
Et je me pose la question en me disant, l'Église d'un côté a avancé, et en ce qui concerne les divorcés et divorcés remariés, il y a un problème.
Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire je crois que qu'on a cette histoire de péché, de rapport à la chair, à la sensualité, est devenue obsessionnelle pour les rigoristes. Et pour eux, il n'y a pas de péché plus grave. Et ce qui est un vrai délire, quoi. C'est un vrai délire de malades mentaux. Enfin, il faut dire les choses, quoi, de déséquilibrés. Non, le plaisir charnel n'est pas du tout un péché. Même, alors, il faut pousser plus loin, même en dehors des cadres du mariage, quoi. Et là, c'était parce que un certain nombre de rigoristes complètement, je ne sais pas comment dire, pathologiquement atteints, qui n'avaient pas compris la vraie et authentique tradition de l'Église que je vous ai rappelée. Alors, il est vrai que ça a cohabité avec une pensée néoplatonicienne. Je vous l'ai signalé aussi. La pensée néoplatonicienne, c'est quoi ? C'est de dire que seul l'esprit domine l'homme et doit dominer l'homme, et que la matière, la chair, le plaisir, la sensualité entraîneraient toujours l'homme vers le bas. Et donc, ça a cohabité dans l'Église, les deux ont cohabité. Sauf que la tradition de l'Église, saint Thomas en tête compris, dit que la sexualité est faite pour le bien des époux, donc elle n'est pas un péché grave. Or, les rigoristes se sont coincés, mais se sont vérolés, c'est le mot, hein, se sont vérolés là-dessus et ont pollué et la pensée de l'Église et ses pratiques. Et c'est la raison pour laquelle le pape François a tant de mal à ramer, parce que pour eux, il n'y a pas de péché plus grave que la concupiscence. C'est complètement hallucinant, quoi. Complètement hallucinant. Alors que, comme je vous l'ai dit, la sensualité, c'est le mode d'existence normal et habituel d'une famille et d'une conjugalité. Et c'est... Alors voilà, donc, et c'est la raison pour laquelle, vous avez raison, on a plus facilement cédé, et heureusement, sur l'histoire de l'exclusion des suicidés, que sur l'histoire des gens qui ont des pratiques sexuelles hors couple. Parce que c'est ça la question. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce long préparatif avant d'en venir au texte de François. Parce que derrière ça, il y a cette mentalité je trouve très pathologique d'avoir fait une fixation obsessionnelle sur le péché de chair, comme si c'était le péché le plus grave, comme si c'était un péché. Voilà. Donc c'est ça qui alourdit tout. C'est pénible.
Merci.
Je t'en prie. Enfin, c'est un texte, voyez, qui est... Alors mes petites souris, vous avez vu, hein, ma mascotte s'est promenée tout le temps. Vous avez bien vu, hein, de quoi il s'agit, c'était la montagne à accoucher d'une souris, oui, mais ça bouge quand même, ça fait bouger les lignes. Et je pense que mon dernier croquis, là, j'ai trouvé ça sur Internet, j'ai trouvé ça super. La petite souris va finalement l'emporter. Hein. Je crois que ça va bouger. Alors, les cardinaux que je vous ai montrés, là, avec ce fameux cardinal de Buenos Aires, il est certainement parmi les prochains électeurs du pape, j'espère, vont l'emporter dans l'Église et vont devenir majoritaires. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
Hein. Pas gagné.
Non. Mais bon, on va y arriver.
Beaucoup parlé à la fin. Je t'entends très mal.
Bon, voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve. Alors, la prochaine fois sera moins lourd. C'est Fratelli Tutti. Et on finira avec Laudato Si, eu le plus d'audience. Donc voilà. Eh bien, bonne nuit à tout le monde. Merci.
Merci. Bonsoir.
À bientôt. Bonne semaine.
Merci.
Bonsoir.
Au revoir.
Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Au revoir.